Pour commencer ce deuxième cours d'histoire de l'Église, je dirais que le principal document dont nous disposons pour connaître les premiers temps de l'Église, eh bien, ce premier document est constitué par le livre des Actes des Apôtres. Commençons par nous poser la question de savoir qui est l'auteur des Actes des Apôtres. Par trois fois, l'auteur se donne pour un compagnon de voyage de Paul, comme il apparaît dans le corps du texte. Alors, une première fois, lors de la deuxième mission de saint Paul, dans le texte, il emploie le « nous », c'est-à-dire qu'il parle de Paul, d'autres compagnons qui accompagnent Paul dans ses voyages missionnaires, et il dit « nous ». Sans se nommer lui-même, bien sûr. Donc c'est en Actes 16, 10-17. Arrivé au port de Troas, il, et là il nomme Paul, Silas, et lui qui n'est pas nommé, se dirige vers la ville macédonienne de Philippe. On est alors vers l'an 51-52. La deuxième mention de l'auteur, c'est lors du retour de la ville macédonienne de Philippe vers la Pâque 58, après, nous disent les actes, un séjour en Grèce, donc chapitre 20, versets 5 et suivants. Et la troisième mention, c'est lors du départ vers Rome, donc lors du départ de Césarée Maritime pour Rome. Acte 27, 1 et suivant. Donc, on voit dans ces trois mentions que le pronom « nous » est utilisé et qu'il indique la présence de Saint-Luc, qui, comme je me répète, ne se nomme pas. Des indications données par les actes et certaines épîtres pauliniennes nous montrent à l'évidence que Luc est l'auteur des actes. Alors Luc, lui saint Paul, suit saint Paul, pardon, dans ses deux captivités. Comme médecin, il lui prodigue des soins, c'est affirmé dans Colossiens 4,14. Il suit fidèlement saint Paul alors que les autres sont partis, nous dit 2 Timothée 4,11. Et bien qu'il soit discret, on peut dire avec certitude qu'il est témoin oculaire d'un certain nombre d'événements qui sont rapportés dans le livre des Actes. Il connaît donc les faits, les personnages, les lieux dont il parle. Il faut dire que la tradition la plus antique et la plus vénérable a toujours identifié Luc comme compagnon de Paul, comme auteur des actes, lesquels, je le rappelle, constituent la suite de l'Évangile, qu'il a mis lui-même par écrit. Et il y a donc une unanimité de la tradition sur ce point. Alors, j'en veux pour preuve des éléments qui sont à considérer dans ce sens. Le prologue de l'Évangile de Saint-Luc, le prologue des actes, nomme Théophile comme destinataire des deux écrits. Et Théophile n'est pas, comment dire, un personnage fictif. C'est très probablement un personnage important à qui Luc destine son évangile, puis le livre des actes. Dans le prologue des actes, 1, verset 1, il y a une allusion, tout ce qu'il y a de plus direct, au premier livre, c'est-à-dire à l'Évangile. Maintenant, si on compare la langue entre les deux écrits, il y a quelque chose aussi de très parlant. Nous trouvons, par exemple, une cinquantaine d'expressions qui sont communes à l'Évangile de Luc et aux Actes. L'importance dans le corps du livre accordée à la mission de saint Paul est un témoignage éloquent du compagnonnage avec l'apôtre. Et on peut dire que on repère assez facilement bon nombre d'accords avec les points centraux de la doctrine de saint Paul. Alors, peut-on dater les actes des apôtres? D'abord, il faut essayer, je pense, avant de répondre très directement à la question, essayer d'établir une chronologie des actes. La chronique des événements rapportée par saint Luc, bon, elle s'étend environ sur 32 à 35 années. Après la résurrection et l'ascension, les actes commencent par ça d'ailleurs, et ce qui est en continuité avec Luc 24, 47-51, jusqu'à la première captivité romaine de saint Paul, entre 61 et 63. C'est donc pendant ces années de la captivité de saint Paul que furent écrits les actes. On peut parler donc d'une chronologie, donc, mettre en regard ce que nous délivrent les différents chapitres des actes avec les années. Mais d'abord, je voudrais évoquer rapidement le plan du livre. Au chapitre 1, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les disciples assemblés qui attendent la venue de l'Esprit-Saint. Des chapitres 2 à 8, on va de la Pentecôte à la conversion de saint Paul. Des chapitres 9 à 12, on se dirige donc vers le premier voyage missionnaire. Des chapitres 13 à 14, c'est le premier voyage missionnaire proprement dit. Chapitre 15, pour partie jusqu'au verset 35, c'est le synode de Jérusalem. De 15-36 à 18-22, c'est le deuxième voyage missionnaire. De 18-23 à 21-14, c'est le troisième voyage missionnaire. Et ensuite, c'est donc le départ de Paul vers Rome, où il va également prêcher à Rome. Donc 21-5 à 28-31. Donc ces chapitres s'égrènent, correspondent à une chronologie qui s'égrène entre l'an 30 à 33 jusqu'aux années 60 à 63. Alors en ce qui concerne la datation proprement dite du livre des Actes des Apôtres, la question reste ouverte. Selon Eusèbe de Césarée, les actes furent rédigés à Rome avant le procès de l'apôtre en 63. Mais il existe aussi d'autres traditions qui rapportent d'autres hypothèses et qui font dater l'évangile de Luc après la mort de Paul, c'est-à-dire aux environs des années 66-67, et donc une rédaction des actes qui serait plus tardive, aux alentours des années 75-80, étant entendu, bien sûr, que les actes sont rédigés après l'Évangile. Alors, que faut-il penser de ces différentes hypothèses? Là, je ne vais pas trop entrer dans les détails à propos de cette question, parce que cette question est pour digne qu'elle soit, bien sûr, est à la périphérie de mon sujet, mais simplement vous donner quelques éléments qui me paraissent intéressants à considérer. Je vais suivre en cela l'argumentation développée par l'abbé Philippe Roland, j'ai déjà cité son texte dans le cours précédent, sur la datation des actes. Premier point. Les actes, c'est ce que dit l'abbé Philippe Roland, et je crois que c'est tout à fait digne d'intérêt. Les actes n'ont pu être terminés, donc il examine cette question de la datation, et il dit que les actes n'ont pu être terminés qu'à partir de 63, donc à la fin des deux années de captivité de saint Paul, dont parle Actes 28, 30-31. Selon lui, une datation plus tardive, c'est-à-dire correspondant à ce qu'une tradition rapporte et qui veut que les actes auraient été rédigés entre 75 et 80, cette hypothèse se heurte à plusieurs difficultés. La première, et ça je le cite là, je vais faire deux citations de ce qu'il dit, la première est bien connue. Comment peut-on imaginer, nous dit-il, que l'auteur du récit, après nous avoir instruit en détail de l'arrestation de Paul, de son jugement à Jérusalem, de son procès à Césarée, de son appel à l'empereur, des difficultés rencontrées pour rejoindre celui-ci, ne nous dirait-il pas au moins d'un mot comment s'est conclu le procès et si Paul a pu enfin témoigner du Christ devant les autorités romaines? Ses lecteurs sont mis en appétit pour le savoir et il les laisse sur leur faim. Est-ce parce qu'il veut les frustrer ou simplement, ça c'est très important, ou simplement que la suite de l'histoire lui est encore inconnue? Cette citation de l'abbé Philippe Roland est tirée de son livre « L'origine et la date des évangiles ». Alors, ce qui est visé ici dans ce propos, c'est la finale assez abrupte, somme toute, en acte 28-30. Bon, une deuxième citation qui ressort de cette argumentation en faveur d'une date précoce de rédaction des actes et non pas de l'hypothèse d'une rédaction tardive 75-80. Je cite à nouveau. Un autre fait milite en faveur d'une date précoce des actes. Jusqu'en 62, Néron a été conseillé par le philosophe Sénèque et son administration a été considérée par les chrétiens comme équitable. On en trouve un témoignage en Romains 13:1-7 ainsi que en 1 Timothée 2, versets 1 et 2, en Tite 3, versets 1 et 2, et en 1 Pierre 2:13-17. On ne s'étonne donc pas que tout au long de son récit, Luc, donc dans le récit lucanien des Actes, Luc présente souvent les autorités romaines sous un jour favorable. Même Pilate est presque disculpé. Il proclame honnêtement l'innocence de Jésus et ne semble le livrer que pour éviter une émeute. Ça, c'est tiré de Luc 23:23. Ni Sergius Paulus à Chypre, ni le proconsul Gallion à Corinthe ne s'opposent à la prédication de l'Évangile. Même le procurateur Félix, pourtant cupide et débauché, acte 24-25-26, n'accepte pas d'abandonner Paul aux mains du Sanhédrin. Quant à Festus, il est présenté comme un homme honnête, un peu dépassé par les événements, mais faisant consciemment son métier, c'est dit en acte 25, verset 25-27, Luc souligne aussi l'humanité, Philippe Roland met là l'humanité entre guillemets, du centurion Julius, acte 27-3. Or, ajoute Philippe Roland, à partir de 62, Néron a disgracié Sénèque et a commencé à se comporter en tyran. Ayant fait incendier un quartier insalubre de Rome en 64, il a accusé les chrétiens de ce crime et les a fait périr dans des souffrances atroces. Comment Luc, écrivant après ces événements, aurait-il pu éviter d'en rendre compte et surtout d'exprimer une certaine réserve par rapport aux autorités romaines, devenues franchement hostiles aux chrétiens ? Fin de citation. Le quatrièmement, donc, et c'est encore une dernière citation de Philippe Roland, donc je rappelle dans la démonstration qu'il fait pour illustrer le fait que la rédaction des actes ne peut pas être aussi éloignée de la captivité de Paul à Rome. Je cite à nouveau, « On s'étonne encore plus que l'auteur de l'histoire des origines chrétiennes. » Philippe Roland appelle le livre des actes par cette dénomination « Histoire des origines chrétiennes » ait pu écrire son récit après la destruction de Jérusalem par les armées de Titus en l'an 70, comme le disent presque tous les critiques contemporains qui placent vers 80 la rédaction de l'œuvre. Cette ruine avait été prédite par Jésus, comme l'auteur le proclame donc dans son évangile, chapitre 19, versets 41-44, et aussi en 21-6 et plus loin 20-24. Comment, écrivant après 70, un chrétien aurait-il pu résister à l'envie apologétique de montrer que Jésus était un authentique prophète et que ses prédictions s'étaient réalisées. Il aurait ainsi pu donner la preuve de l'aveuglement du peuple juif qu'il souligne à la fin de son livre, Actes 28, 25-28. Fin de citation. Donc je m'arrête là sur cette question controversée de la date des actes. L'argument de Philippe Roland, bien sûr, entraîne également, par voie de conséquence, une datation plus précoce de l'évangile de Luc, qui est aussi donc antérieure à 61-63 et qui est aussi refusée par bon nombre de critiques contemporains. Maintenant, voyons quelle est la personne de Luc. Qui est Saint Luc? Là aussi, sur cette question, il y a discussion. Que sait-on de lui? Il rédige, nous le savons, son évangile dans une belle langue grecque, mais nous savons également, il le montre d'ailleurs, qu'il a une très bonne connaissance de la religion des Hébreux. À partir de là, il y a plusieurs hypothèses qui sont formulées. On peut d'abord penser qu'il s'agit d'un juif hellénisé, mais il est aussi possible que ce soit quelqu'un d'origine, un grec d'origine païenne. Colossiens 4.11 parle de Marc et de son cousin Barnabé, de Jésus surnommé Justus, en disant « De ceux qui sont venus de la circoncision, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. » Alors, cette citation de Colossiens 4.11 laisse à penser que Luc viendrait de la gentilité. Néanmoins, il y a discussion sur cette question qui reste ouverte. Mais l'étude du professeur Claude Tresmontant, qui se nomme le Christ hébreu, montre que la belle langue grecque du médecin lettré, qui était le compagnon de saint Paul, n'est pas exempte, loin s'en faut, de sémitisme. Voilà, donc, j'en viens maintenant à l'histoire qui est exposée dans le livre des Actes. Le livre des Actes, ai-je dit en commençant, c'est le premier livre d'histoire de l'Église. Mais ce n'est pas un livre d'histoire ordinaire, comme nous allons le voir. Cette œuvre, celle de Saint Luc, elle est l'œuvre d'un témoin oculaire de bon nombre d'événements qui sont narré dans ce livre. Mais nous ne sommes pas pour autant en face d'une chronique, d'une simple chronique, mais de la narration d'une histoire qui a un sens, qui est orientée vers un but qui est exposé dès le prologue des Actes. C'est en fait, on pourrait dire, l'histoire des actes du Saint-Esprit. L'expression a été employée par bon nombre d'exégètes, à juste titre, me semble-t-il. qui va conduire les témoins, les apôtres et disciples du Christ, à annoncer jusqu'aux extrémités de la terre, à annoncer l'Évangile, l'heureuse annonce, la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre, du moins telles qu'elles sont connues dans ces temps-là. Et je cite le verset de Actes 1:8, « Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusque aux extrémités de la terre. » Donc, de fait, depuis la réception du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, jusqu'à la prédication de Paul à Rome, pendant sa captivité, c'est bien ainsi que tout cela va se passer et Luc en rendre compte. Donc tout son travail d'historien va être adossé à cette exigence qui est fixée par le Christ, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Et la narration va être orientée vers ce but. Jean Danielou, d'ailleurs, dans son livre qui s'appelle « L'Église des premiers temps » et le sous-titre est « Des origines à la fin du IIIe siècle », nous dit, je cite, « Il est aussi impossible d'écrire l'histoire de l'Église sans partir de la descente de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte, de l'an 30, que d'écrire l'histoire du Christ sans partir de l'incarnation du Verbe le jour de l'Annonciation. Dans l'un et l'autre cas, nous sommes en effet en présence d'événements qui relèvent de l'histoire du salut, en même temps qu'ils se situent dans la trame de l'histoire empirique. Et ce serait les dénaturer complètement que de les envisager seulement sous le second aspect. » Et il ajoute, c'est toujours Jean Danielou que je cite, « Sur ce point, le témoignage des Actes des apôtres est capital. Il nous présente la création de l'Église comme un événement de l'histoire sainte. Ce témoignage n'a aucune raison d'être mis en doute. Il correspond d'ailleurs à l'unanimité de la tradition chrétienne primitive. Il ne saurait être suspecté qu'au nom de préjugés rationalistes qui récuseraient a priori l'existence d'événements surnaturels. Les données essentielles de l'événement sont celles-ci. D'une part, il s'agit de la mission de l'Esprit, acte 2, 4, créateur et sanctificateur. D'autre part, l'objet de cette mission concerne la communauté constituée par le Christ durant sa vie publique. C'est sur les 12 réunis ensemble, donc tels qu'on les voit au début des actes, 2, 1, que l'Esprit est répandu. Enfin, les 12 sont investis par l'Esprit d'une autorité et d'une puissance qui les constituent prédicateurs et dispensateurs des richesses du Christ ressuscité. » Donc c'est à la page 10 du livre, j'ai terminé la citation de Jean Danielou, c'est elle qui figure à la page 10 de son livre « L'Église des premiers temps ». Alors, lorsqu'ils furent investis de la force et de la puissance de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, les apôtres assemblés, suivons donc le récit des actes, les apôtres assemblés commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vais citer le texte exact. C'est en 2:4. « Donc c'est après l'apparition des langues de feu, hein, ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous allons voir que ce sont des langues, c'est pas la glossolalie, hein, ce sont des langues qui vont être comprises par l'auditoire des apôtres. Alors, à ce moment-là, à Jérusalem, il y a beaucoup de monde, parce que la Pentecôte, dans la liturgie juive, c'est une des trois fêtes majeures. Il y a Pessah, il y a Shavuot, il y a Sukkot. Donc, Pessah, c'est la Pâque, Shavuot, c'est la Pentecôte, c'est le renouvellement de l'Alliance et la fête du don de la loi donné à Moïse. Et c'est l'une des trois fêtes d'obligation où tout Israël monte au temple, y compris, au moins pour ceux qui le peuvent, ceux de la diaspora, et Dieu sait que la diaspora juive est très nombreuse dans tout le bassin méditerranéen. Donc ceux d'Israël, ceux de la diaspora, sans oublier les prosélytes, et les craignant Dieu, comme on les nomme. Alors les prosélytes, vous le savez tous, hein, ce sont des non-juifs de naissance qui ont choisi, qui sont entrés dans le judaïsme et qui ont été circoncis et qui font partie donc du peuple de l'Alliance, bien que ils ne sont pas juifs de naissance. Les craignants Dieu, eux, ce sont des gens qui sont sympathisants de la religion juive, mais qui n'ont pas reçu la circoncision et qui ne sont pas membres du peuple juif. Mais quoi qu'il en soit, ça fait vraiment beaucoup de monde, parce que, comme c'est l'une des fêtes d'obligation, Jérusalem est pleine de pèlerins en ce jour de Pentecôte. Donc ce beaucoup de monde, eh bien, il va écouter les paroles des apôtres, chacun dans sa langue, nous dit le livre des Actes. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, là c'est 2:5, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc ce sont les nations de tout le bassin méditerranéen, au moins d'une grande partie. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pierre, entouré des 11, hein, puisque je vous rappelle, suite, et c'est dit au début du livre des Actes, à partir du premier chapitre, verset 15, il y a eu l'élection du remplaçant de Judas. Hein. Donc, par tirage au sort, c'est Matthias qui a été choisi pour remplacer le traître Judas et qui devient membre du collège des 12. Comment a-t-il pu devenir membre du collège des 12? Parce que il a été témoin oculaire du ressuscité, non seulement de la résurrection du Christ, mais depuis le baptême au Jourdain. Il a vécu et s'est dit, il faut donc que ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, c'est-à-dire qu'ils soient témoins de la vie, des actes, de l'enseignement du Christ, de sa mort et de sa résurrection, et de son ascension. Et c'est à ce titre-là qu'il devient apôtre. Donc les apôtres sont des témoins oculaires. Entouré des onze, Pierre va prendre la parole. La personne de Pierre, dans les premiers chapitres, joue un rôle important. Et nous allons voir, il y aura un balancement entre Pierre et Paul, puisque à la suite du livre, c'est Paul qui va devenir la personnalité apostolique la plus en vue, et c'est de lui dont on va parler essentiellement avec ses voyages missionnaires. Donc, Pierre va prendre la parole devant la foule et va tenir un discours qui a toutes les caractéristiques d'un discours kérigmatique en milieu hébreu. Bon, d'abord, ce discours s'adresse avant tout à la maison d'Israël. « Homme d'Israël, écoutez ces paroles », c'est dit en 2:22. Ce discours kérigmatique est rapporté en 2:14-41 et c'est un discours qui va susciter les premières conversions au Christ. Je cite d'entendre cela, donc les auditeurs du discours de Pierre, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre répondit, « Repentez-vous et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, et tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est donc en 2:37-39. Donc on remarque tout de suite dans ce discours que si la promesse concerne d'abord les Juifs, il y a une allusion très claire aux païens qui vont ultérieurement entrer dans l'Alliance. Ceux qui sont au loin, ce sont les nations. Et acte 2:41 nous dit que nombreux sont ceux qui reçurent cette parole et se firent baptiser. Entendant les paroles du kérigme, c'est-à-dire l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ, le Saint-Esprit avait ouvert leur cœur et les conduisit au Christ. Acte 2:40 nous donne même une précision, et ça a quelque chose à voir avec la constitution de la première église de Jérusalem, qu'à la suite du premier discours kérigmatique prononcé par Pierre, eh bien, les convertis furent environ 3000 ce jour-là, ce qui est considérable, mais pas tant que ça finalement, parce que dans les fêtes d'obligation que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, il y a énormément de monde à Jérusalem. Donc, c'est un chiffre conséquent, bien sûr, 3000 conversions, mais, comment dire, il ne doit pas pour autant nous étonner, son importance ne doit pas pour autant nous étonner. Une bonne partie de ces 3000, d'ailleurs, va constituer le premier noyau de l'église de Jérusalem, la première église, et les autres, ils partiront dans leurs pays respectifs et ils porteront la parole. Parce que parmi ces 3000, il n'y a pas que des Juifs habitant Israël, il y a aussi ceux de la diaspora, bien sûr. On a des indications chiffrées également. On a vu, par exemple, qu'en 1:15-26, là, c'est avant le discours kérigmatique de Pierre, est cité le chiffre de 120 frères assemblés pour l'élection du remplaçant de Judas, pour donc le tirage au sort qui a vu Matthias être incorporé au Collège des Douze. Alors, du chapitre 2 au chapitre 5, hein, globalement, on a affaire à la fondation de l'Église de Jérusalem. Tout tourne autour de la première communauté, celle de Jérusalem, avec les faits marquants de la vie de cette première communauté. Bon, d'abord, je ne vais pas me répéter, mais c'est la Pentecôte, hein, dès le début du discours c'est le récit lucanien des Actes, donc avec la Pentecôte. Le premier discours de Pierre, discours aux caractéristiques kérigmatiques très prononcées, les premières conversions, la description, et ça c'est très important, on va y revenir, la description de la vie de la communauté à deux reprises. Dans cet ensemble de 1 à 5, chapitre 1 à 5, donc chapitre 2, verset 42-46, et chapitre 4, verset 32-35. La guérison d'un impotent, qui va amener Pierre à prononcer un deuxième discours face à l'émotion certaine que cette guérison va susciter parmi la foule. Et là, c'est encore un discours kérigmatique qui est construit selon le même modèle que le précédent. Il y a plusieurs types de discours kérigmatiques dans les Actes, et ils ne sont pas tous identiques. Bien sûr, ils ont le même fondement, mais pas tous forcément la même expression. C'est la même vérité qui est toujours énoncée, la mort et la résurrection du Christ, qui est le centre même du mystère chrétien, et qui est au cœur du témoignage des apôtres. Les apôtres ont vu, ont entendu, ils ont été témoins de tout cela, et ils ne peuvent se taire, dira plus tard le même Pierre devant le Sanhédrin, qui lui demandant de ne plus prêcher le Christ, eh bien Pierre dira « Nous ne pouvons nous taire sur ce que nous avons vu, sur ce que nous avons entendu, et sur ce que nous devons témoigner. » C'est le fameux non possumus de Pierre. Mais il y a plusieurs formes de discours kérigmatiques. Plus tard, on en verra d'autres. Par exemple, celui de Paul à l'Areopage d'Athènes, bien sûr, qui énonce la même vérité fondamentale, mais qui n'a pas forcément la même forme, parce que la forme tient compte du public auquel est adressé ce discours kérigmatique. Là, dans les discours de Pierre, puisqu'il y en a quatre dans cette section du livre des Actes, on voit que les caractéristiques sont communes. Le premier point, c'est proclamer le Christ mort et ressuscité. Deuxièmement, c'est montrer toute la dimension messianique de ce fait. Ça, c'est très important, puisqu'on est en milieu hébreu. Troisièmement, c'est le justifier par la loi et les prophètes. Là, donc, on fait appel à l'interprétation de l'écriture de l'Ancien Testament pour montrer que la venue du Christ, son incarnation, sa mort et sa résurrection correspond au dessein du Père, accompli par le Christ, et donc c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est en particulier l'accomplissement de toute l'annonce prophétique d'Israël. Et le quatrième point, c'est toujours une exhortation au repentir et à la conversion, qui clôt le discours. Ça, c'est des grandes caractéristiques du discours kérigmatique en milieu judéen. Autre événement qui est relaté dans cet ensemble qui va du premier au cinquième chapitre, c'est l'arrestation de Pierre et de Jean. et les nouvelles conversions dont on parle, actes 4, 1 à 4. Et là, donc, on voit que s'agrègent 5000 nouveaux frères. Il y a également la comparution devant la Sanhédrin de Pierre et de Jean, 4, 5, 22, puis leur libération, 4, 23, 31. Donc on constate que l'Église de Jérusalem connaît une croissance rapide. Il y a d'ailleurs en 4, 23, 31, donc une prière qui est très, très belle et très importante que l'on peut citer, parce qu'on retrouve bon nombre de caractéristiques qu'on trouvera dans la littérature judéo-chrétienne, c'est-à-dire que vous savez que l'Église de Jérusalem, les fidèles de l'Église de Jérusalem, comme on va le voir, ont en tant que communauté leurs caractéristiques propres, mais continuent à aller prier au temple par ailleurs. Et donc 4, 23, 31, c'est la prière des apôtres dans la persécution, qui dit ceci: « Une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. À ce récit, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur, » et là il est cité un passage de l'Ancien Testament, « Pourquoi cette arrogance chez... » enfin, du psaume précisément, « Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples ? Les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son oint, celui qui a reçu l'onction. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur, Jésus. » Ça, cette nomination de Jésus comme serviteur, on la retrouvera à plusieurs reprises dans les écrits judéo-chrétiens. « Que tu as oint Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour accomplir tout ce que dans ta puissance et ta sagesse tu avais déterminé par avance. À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces, et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ça, c'est une des toutes premières prières de l'Église naissante, prière qui est encore très marquée par des tournures juives, ce qui d'ailleurs est tout à fait normal. Et à titre d'exemple, nous en retrouverons de ces tournures de semblables dans la Didaké, par exemple, hein, où Jésus est identifié comme serviteur, comme oint de Dieu. Cette terminologie est très fréquente dans les textes qui tournent autour de l'Église de Jérusalem, dans les textes chrétiens du primitif, qui ne sont pas encore détachés du judaïsme complètement, bien qu'ils constituent déjà une communauté à part entière. On trouvera également quelque chose qui est bien connu, c'est la mise en commun des biens, le mensonge d'Ananie et de Saphir en 5:1-11, et la seconde arrestation des apôtres et la comparution devant le Sanhédrin en 5:17-33, avec le fameux « Nous ne pouvons pas, non possumus, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu », avec l'intervention de Gamaliel et la libération des apôtres qui clôturera ce chapitre 5 des Actes. Alors, on ne va pas reprendre point par point tous les éléments les uns après les autres. Ceux qui suivent ce cours d'histoire de l'Église, eh bien, sont priés de lire très attentivement le texte des Actes. Ils découvriront souvent beaucoup de choses parce que le livre des Actes des Apôtres est souvent un texte qui est assez méconnu et qui mérite pourtant toute notre attention. À partir du chapitre 6, donc, qui s'ouvre avec l'institution des sept, les sept diacres, l'arrestation d'Étienne, son discours et sa lapidation, et là encore un discours kérigmatique, la persécution va s'abattre sur l'église de Jérusalem et va entraîner pour une très grande part sa dispersion en Judée, en Samarie, en Galilée, voire même au-delà. Sauf les apôtres qui resteront encore à Jérusalem, nous dit Actes 8, 16. Donc, dès ce moment, à partir du chapitre 6, va s'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la toute première Église, parce que l'annonce du kérigme, qui est le fait de tous les apôtres du Christ, eh bien, va se répandre hors des frontières de la Judée, et peu à peu va se répandre assez loin, et nous le verrons par la suite avec la fondation par exemple de l'église d'Antioche, et à plus forte raison avec les voyages missionnaires de Paul et la fondation des églises qui va en résulter. Je voudrais revenir d'abord sur ce qui est dit en 2:42-46, parce que là, nous avons l'énoncé de caractéristiques fondamentales de ce qu'était la première communauté chrétienne, la première église, celle de Jérusalem. Je cite, je recite plus exactement, « Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Les fidèles, nous disent les Actes, sont emplis de la crainte de Dieu et les apôtres accomplissent de nombreux signes ou miracles. La communauté met en commun les biens et ses membres sont fidèles aux prières du temple, puisqu'on est encore en milieu judéo-chrétien. Mais on voit par exemple Pierre et Jean y monter pour la prière du matin en 5:21. Et celle de la neuvième heure, donc à l'heure du sacrifice du soir, en 3:1. Mais tout en étant fidèles à la prière au temple, prière du matin, prière du soir, ils accomplissent la fraction du pain en s'assemblant dans les maisons des fidèles. Et nous disent les Actes, la louange est au milieu d'eux et la communauté grandit. Le Seigneur y adjoignait ceux qui seraient sauvés. Alors, dans l'histoire exégétique, il y a beaucoup de gens qui qualifient ce texte d'idyllique. Bon, c'est leur droit après tout, mais si on y regarde de près, on voit que c'est une affirmation qui est sans aucun fondement. C'est plutôt le témoignage de la ferveur de cette première Église qui a pleine conscience de former une communauté particulière. Et d'ailleurs, vous savez que le vocabulaire lui-même est instructif de ce point de vue-là, c'est-à-dire que dans les Actes, il est employé également le terme « ecclésia ». « Ecclésia », donc ça traduit le « kaal » hébreu, comme je l'avais déjà dit. Dans le discours d'Étienne, le substantif « ecclésia » est utilisé. Et ça renvoie à l'assemblée des Hébreux au désert. Autrement dit, Bien qu'il continue à prier au temple, la première communauté des fidèles de Jérusalem, eh bien, ces fidèles sont conscients d'être une communauté qui s'apparente au nouveau peuple de Dieu. Et donc ce terme « ecclésia » désignera donc non seulement l'église de Jérusalem, mais également toutes les églises locales qui seront fondées par la prédication des apôtres et l'église elle-même, en définitive, qui sera une seule église en différents lieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces caractéristiques qui ont été nommées, hein ? L'assiduité à l'enseignement des apôtres, la fidélité à la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Eh bien, ce sont des caractéristiques qui sont celles des premières communautés chrétiennes, mais ce sont des caractéristiques fondamentales qui ne sont pas liées seulement à un temps déterminé, mais qui sont des caractéristiques de l'Église elle-même. La fidélité à l'enseignement des apôtres, hein, l'assiduité à l'enseignement des apôtres, qu'est-ce que c'est à travers toutes les générations? C'est entendre l'enseignement des apôtres, hier comme aujourd'hui, et le recevoir comme un dépôt sacré dont on ne peut rien changer ni rien modifier. Donc, c'est garder ce témoignage apostolique qui est au fondement de l'Église. Deuxièmement, la communion fraternelle, ça concerne la communion fraternelle des Églises entre elles. Les Églises doivent être en communion entre elles. Chaque Église locale avec son évêque doit être en communion avec les autres Églises locales et leurs évêques. Donc, et c'est non seulement cet aspect-là, mais c'est aussi la communion fraternelle qui unit les membres d'un même corps, puisque l'Église est le corps du Christ. La fraction du pain, ça c'est fondamental, c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui est au cœur de la vie de l'Église. C'est dans la fraction du pain que le Christ ressuscité se donne en nourriture aux fidèles. Et la prière comme chemin d'union à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Pour l'union à Dieu, il n'y a pas d'autre chemin que la prière, sans laquelle rien n'est possible. Donc, les actes énoncent non pas quelque chose qui serait idyllique, parce qu'on voit bien à travers le corps du texte des actes qu'il n'y a aucune naïveté chez saint Luc, donc il ne cherche pas à faire une description idyllique de ce qu'est, de ce que sont les pratiques de la première communauté de Jérusalem, mais il montre que par sa ferveur, l'Église est véritablement enracinée dans l'enseignement, dans l'assiduité à l'enseignement des apôtres, dans la fidélité à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Sans tout cela, d'ailleurs, il n'y aurait pas d'Église purement et simplement. Alors, toujours encore un dernier point sur les caractéristiques de cette première communauté de Jérusalem, donc, qui sont déroulées du chapitre 1 au chapitre 5. Ce qui vient d'être dit mérite d'être complété. Acte 2, 46 parle d'une réunion, de deux réunions, pas d'une, mais deux réunions quotidiennes. Après la prière au temple, ils s'assemblent dans les maisons pour la fraction du pain, les prières de louange, et nous avons donc dans le corps du texte des actes une attestation d'une assemblée qui se réunit dans la nuit du samedi au dimanche. Souvent, les assemblées avaient lieu, d'ailleurs, après le sacrifice du soir, donc au début de la nuit, mais pas seulement, hein, pas seulement. Ça n'était pas une règle absolue. Et lors de cette assemblée qui se réunit dans la nuit du samedi au dimanche, puisque en ce temps-là, dans la primitive église de Jérusalem, on observait le Shabbat, mais le premier jour de la semaine, on s'assemblait donc le dimanche dans la nuit, et il y avait dans ces assemblées un enseignement. C'est dit dans Actes 27. On le trouve aussi dans les épîtres pauliniennes. Un enseignement apostolique, des prières et la fraction du pain. Et dans le récit de Actes 27, tout ça se passe dans la chambre haute. Et comme je viens de le dire, nous avons aussi des illustrations de ces pratiques dans les épîtres de saint Paul. Notons également que ces prières, la fraction du pain, sont d'abord le fait des apôtres. C'est eux qui dirigent ces prières. Et plus tard, quand ils vont fonder des églises, eh bien, ils seront entourés d'un collège de presbytéroïdes, d'anciens. Et quand ils quitteront les églises qu'ils ont fondées, eh bien, ils imposeront les mains, donc imposition des mains par laquelle la puissance du Saint-Esprit vient sur celui qui a les mains imposées, parce que tout ce qu'il va faire dépend de l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance qu'il détient par lui-même. Ils ordonneront donc des épiscopes, des surveillants, des évêques de ces différentes communautés. Autre point intéressant à remarquer, parce qu'il a fait souvent couler beaucoup d'encre et fait dire beaucoup de fausseté, c'est la question de la mise en commun des biens. Il est dit « Ils vendaient leurs propriétés et leurs champs et partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. » Alors, c'est lié ça avec le récit de Anani et de Saphir. Donc, vous savez, ce couple qui avait vendu son bien et à qui vont comparaître devant les apôtres et à qui va arriver des malheurs, comme on dit. Pourquoi ? Eh bien, on va voir ça. D'abord, la mise en commun des biens, c'est une attestation que cette communion fraternelle de la première église de Jérusalem, bon, elle était pratiquée non seulement dans les cœurs, mais aussi en actes. C'est très important, il y avait un lien entre toutes les dimensions de l'existence. Donc on mettait en commun des biens, mais il n'y avait pas d'obligation. L'histoire d'Anani et de Saphir, d'ailleurs, montre que ce qui est en jeu, c'est pas du tout le fait qu'ils aient caché une partie du produit de la vente, de leur champ, mais c'est le fait qu'ils aient menti au Saint-Esprit. C'est ça, en fait. En cachant, en dissimulant une partie du produit de la vente de leur champ, parce qu'ils n'en apportent qu'une partie aux apôtres, eh bien, ils mentent au Saint-Esprit, et ce qui les fait périr, lui, Anani, et sa femme, Saphir également. Donc, il est bien dit dans le texte, il n'était pas obligé. Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder ? Et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré ? Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur ? Eh oui, parce que le couple pouvait garder la totalité du produit de la vente de leur champ. Il n'était nullement contraint de le verser à la communauté. Mais en apportant une partie du produit de cette vente et en dissimulant une autre partie, il ment au Saint-Esprit. Et c'est cela qui est gravissime, et c'est cela qui est visé dans le récit de la fraude d'Ananie et de Saphir qui figure au chapitre 5, versets 1 à 11. Ensuite, donc, nous aurons la comparution devant le Sanhédrin. Là, je ne vais pas revenir dessus. Avec la fameuse apostrophe de Pierre qui dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu nous a donné à ceux qui lui obéissent. » Et cette partie du livre des Actes se conclut par l'intervention sage de Gamaliel qui dit à ses pères du Sanhédrin « Si cette œuvre est des hommes, elle périra. Si elle est de Dieu, vous ne pourrez rien contre elle. » Voilà. Donc je vais conclure en disant que bien que cette première église de Jérusalem soit encore liée à la prière du temple, à la prière au temple, à la conscience, très très nettement, de former une communauté nouvelle, d'être par sa foi, sa prière et sa pratique de la charité fraternelle, le témoin d'une autre réalité que celle de ce monde présent et passager. En elle, le Saint-Esprit accorde ses charismes. On voit tout au long, dans cette première partie, chapitre 1 au chapitre 5, mais dans tout le livre des Actes, on voit l'importance du Saint-Esprit. C'est vraiment le livre du Saint-Esprit, lequel Saint-Esprit accorde ses charismes à profusion, le don des langues, les miracles, les signes, le don de prophétie, le don de sagesse, la force donnée aux apôtres pour annoncer le Christ malgré les persécutions, pour lui rendre témoignage, le fait de ne pas se taire, comme dit Pierre devant le Sanhédrin, quoi qu'il puisse en coûter par ailleurs, le Saint-Esprit qui guide cette ecclésia pérégrinante dans toutes les décisions importantes qu'elle doit prendre, comme nous le verrons lors du synode de Jérusalem au chapitre 15, à propos de la question de l'accueil des païens, puisque il y a à ce moment-là des églises qu'on qualifie de pagano-chrétiennes. Il n'y a pas seulement l'église judéo-chrétienne, mais il y a l'église pagano-chrétienne. Les païens sont entrés dans la Nouvelle Alliance, et cela donnera lieu à des décisions importantes du synode de Jérusalem, telles que le rapporte le chapitre 15. Alors, je termine en disant que ce cours n'a pas d'autre but, vous en doutez bien, que donner des points de repère en ce qui concerne l'histoire de l'Église, parce que cette histoire est très vaste et d'une très très grande richesse. Et nous allons donc continuer à la prochaine fois, avec les Actes des Apôtres. Nous n'avons pas fini avec eux. Nous passerons ensuite à l'Église des Pères Apostoliques, mais la prochaine fois, nous serons toujours dans les Actes. Nous parlerons de l'expansion de l'Église hors de la Judée, vers la Samarie, vers la Galilée, vers d'autres lieux, vers l'Asie mineure, pour ensuite aller vers les voyages missionnaires de saint Paul. Et donc, pour être en cours, pour être bien en phase avec ce cours, je vous propose de lire très attentivement les chapitres 6, du chapitre 6 au chapitre 15, donc de l'institution des sept au synode de Jérusalem. Un dernier point bibliographique, donc vous pouvez vous reporter, la littérature sur l'histoire de l'Église est extrêmement abondante bien sûr, je ne citerai que quelques ouvrages. Donc j'ai parlé de l'ouvrage de l'abbé Philippe Roland, « L'origine et la date des évangiles », dans lequel il y a un chapitre sur les actes. J'ai cité également le livre de Jean Danielou, « L'Église des premiers temps », avec comme sous-titre « Des origines à la fin du IIIe siècle ». Je citerai également l'ouvrage de Vladimir Guettet, « Histoire de l'Église », en son tome 1, puisque c'est une œuvre monumentale avec plusieurs tomes, mais tout ce qui se rapporte à l'Église primitive, à la fois à l'Église de Jérusalem proprement dite, l'émission de Saint Paul en territoire païen et l'Église des Pères apostoliques, sont dans le premier tome de l'Histoire de l'Église de Vladimir Guettet, dont vous savez tous que c'est le premier prêtre orthodoxe français au XIXe siècle, qui a été lui-même persécuté, qui a fait l'objet de bannissement de France pendant un temps de sa vie à cause de la foi orthodoxe. Je citerai également A.G. Aman, Prière des premiers chrétiens. Ça rassemble les premières prières chrétiennes. C'est très intéressant comme livre. Un livre de Claude Tressemontant, le professeur Claude Tressemontant, qui s'appelle « Saint-Paul ». Et enfin, je recite donc le premier tome d'Eusèbe de Césarée, « L'histoire ecclésiastique ». Merci de votre attention et à la prochaine fois.